Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour vous présenter cette édition d'Escale. Cette semaine, coup de projecteur sur la lutte contre la pornographie infantile. Nous recevons Marta Santos Pais, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies contre la violence faite aux enfants. Défenseur de longue date des droits des enfants, la juriste portugaise revient sur les défis et les opportunités des nouvelles technologies dans la lutte contre ces pratiques ignobles. Elle nous parle également du premier rapport national sur la question, récemment publié par la Hollande, ainsi que de sa campagne pour la ratification universelle du protocole contre la pornographie infantile. Bonne écoute. La pornographie infantile existe hélas depuis longtemps, mais avec les nouvelles technologies, elle prend une ampleur sans précédent. En effet, aujourd'hui, il est possible de violer un enfant, d'en prendre la photo, de la télécharger sur Internet ou de l'envoyer de l'autre côté de la planète pour que l'image puisse être consommée sans fin, en quelques minutes et en pianotant sur quelques touches d'un téléphone portable. Le défi des nouvelles technologies est d'ailleurs l'un des principaux constats que fait le nouveau rapport national sur la pornographie infantile rédigé par les Pays-Bas. Mais ces technologies sont-elles un atout pour la poursuite des auteurs de ces violations? Peuvent-elles aussi constituer un nouveau volet dans la prévention de ce crime à travers une sensibilisation des jeunes? Autant de questions sur lesquelles revient Marta Santos Pais.
La pornographie infantile est un crime, est une violation des droits des enfants qui reconnaît l'utilisation d'images d'enfants dans des matériels qui sont diffusés un peu partout dans le monde et qui a subi un défi récent d'une ampleur beaucoup plus profonde, qui est lié au fait que maintenant, avec la cybercriminalité, nous avons la possibilité de diffuser partout dans le monde, une petite image qui est prise, par exemple, par un téléphone cellulaire. Donc, la pornographie et l'utilisation de ces images et la possibilité, en fait, de rendre connu un enfant, non pas dans le respect de ses droits fondamentaux, mais en fait, dans la violation de son droit à la vie privée et à la protection de son identité et dignité humaine.
Alors, à quoi est-ce qu'on attribue ce phénomène qui est assez particulier?
Je pense qu'il faudra peut-être distinguer deux dimensions. D'un côté, depuis très longtemps, on était confronté à la production d'images d'enfants. Par exemple, un petit enfant dans le bain qui est pris, on dirait, par un élément de sa famille sans de mauvaises intentions, mais qui tombe dans les mains de quelqu'un qui fait utiliser cette photo pour la transmettre à d'autres qui la regardent ou qui la transforment avec l'objectif d'avoir des images pornographiques ou d'exploitation sexuelle. Mais nous avons aussi cette nouvelle dimension de l'utilisation des photos des enfants, des matériels avec la représentation d'enfants transmise à travers les moyens technologiques dont nous disposons aujourd'hui. Donc ceci est dû bien sûr au fait que nous avons partout dans le monde des personnes qui ne respectent pas les droits des enfants, mais qui ne sont pas nécessairement quelqu'un qui est très éloigné de l'enfant. Très souvent il s'agit de quelqu'un qui a un rapport très étroit avec l'enfant. Un membre de sa famille, un voisin, un professionnel qui s'occupe de l'enfant, par exemple, dans une garderie, dans une école. Et donc, pour un enfant, ce qui est prisé, ce n'est pas simplement son respect à la vie privée, à l'image, à son nom, à sa dignité, mais il s'agit aussi de briser ce rapport de confiance avec un adulte dont l'enfant est en dépendance. Et ceci rend très difficile d'identifier ces cas, parce que dans la plupart des cas, ils ont lieu dans le contexte de la vie privée de la famille ou d'une institution, et surtout où les familles pensent que les enfants sont en pleine protection, sont vraiment là pour jouir de leur enfance.
Donc vous dites en fait que la plupart des images qui sont produites viendraient d'un contexte privé et familier à l'enfant?
La plupart des fois, c'est ça que nous vérifions. Bien sûr, il y a des gens qui sont intentionnellement, dès le début, dédiés à trouver des enfants plus vulnérables, qui soient pour des questions d'argent ou en brisant ce rapport de confiance, en fait, prennent la situation en avantage de leur propre but et non pas dans l'avantage de la protection des droits de l'enfant. Mais c'est toujours dans un rapport très étroit.
Thank you. Alors, la Hollande, qui est d'ailleurs le premier pays à avoir un rapporteur spécial national sur la question de la pornographie infantile, vient de présenter son premier rapport, et un rapport qui a 5 conclusions. Est-ce que vous pouvez revenir sur le rapport, nous en dire justement les points principaux?
Ce premier rapport sur la pornographie infantile, d'un côté, reconnaît ce nouveau univers et ses grands défis présentés par l'utilisation des nouvelles technologies. Non pas les technologies nécessairement sophistiquées, mais le téléphone cellulaire que tout le monde a aujourd'hui. Donc, la première conclusion est justement de reconnaître que les défis auxquels on se voit confrontés sont liés à notre univers quotidien et à l'univers quotidien des enfants. Donc, ça présente des risques accrus qui peut-être, il y a une décennie, on ne reconnaîtrait pas. La deuxième chose que le rapport reconnaît, c'est que justement, nous avons aujourd'hui non simplement les risques présentés par l'accès à ces nouvelles technologies et l'utilisation néfaste de ces technologies pour mettre en cause les droits des enfants, mais nous avons aussi une coopération internationale qui grandit entre différentes agences policières qui aident à identifier à travers les images disponibilisées à travers les nouvelles technologies la possibilité d'identifier les personnes qui en font une utilisation néfaste et criminelle. Et donc le rapport reconnaît la grande opportunité que présentent les nouvelles technologies pour identifier les réseaux qui utilisent ces images et la possibilité de les faire transmettre partout dans le monde, en fait. Et le rapport est lié à un cas très précis qui, justement, a eu lieu aux Pays-Bas, dans une garderie au centre d'Amsterdam, où plusieurs enfants avaient été exploités, abusés, et qui avaient été photographiés. Et les images de ces abus avaient été mises dans ce réseau technologique et transmis à plus de 50 pays. Lorsque les autorités policières internationales se sont penchées sur ces images à travers un petit dessin qui était toujours présenté dans les t-shirts que portaient ces petits-enfants, quelques semaines à peine, ils ont pu identifier la garderie où ces abus avaient lieu et en fait ont pu identifier les personnes responsables qui ont été récemment punies dûment par les tribunaux hollandais.
C'était des images pornographiques ou c'était des images plus ou moins innocentes? Qui ont été déformés.
Pornographique et d'abus sexuels de ces enfants.
D'accord.
Et quelques-uns en avaient quelques jours. Le plus petit avait moins de 20 jours. Donc, ceci nous démontre que les abus peuvent avoir lieu n'importe où, même dans les lieux où les enfants sont censés être protégés et où les parents font confiance pour que les enfants soient bien traités, pour qu'ils puissent grandir en pleine joie et en confiance. Et en même temps, ils se voient confrontés à cette réalité dramatique. Mais donc, la conclusion du rapport est que le fait que les technologies disponibilisent ces photos dans un univers auquel les entités policières peuvent avoir accès nous permet d'identifier les personnes responsables, les punir et assurer que ces histoires ne vont plus se répéter. La troisième conclusion du rapport, et pour moi, elle est également d'une immense importance, est le fait que les enfants et surtout les jeunes enfants, les adolescents, utilisent ces nouvelles technologies avec une habileté et une normalité très naturelle. Et donc, le rapport reconnaît la possibilité d'informer, de former, d'appuyer les enfants pour qu'ils soient la première ligne de défense et de prévention de ces abus, pour qu'ils puissent utiliser les nouvelles technologies sans courir le risque de rendre connu leur identité, le lieu de leur domicile, leur âge, et donc pour diminuer les risques d'être violés, d'être abusés, d'être exploités sexuellement, y compris à travers les images. Et enfin, le rapport souligne aussi l'importance de renforcer non simplement les mesures de politique, de formation des professionnels, l'enregistrement de tous ceux qui sont criminels et qui sont identifiés comme criminels dans ce camp, mais en même temps, la possibilité de renforcer la coopération internationale d'une façon beaucoup plus visible et forte pour que n'importe quelle image qui soit transmise n'importe où dans le monde puisse être en fait contrôlée et aider à identifier ceux qui en sont responsables.
Pour Marta Santos Pais, au-delà des opportunités qu'offrent les nouvelles technologies dans la lutte contre la pornographie infantile, il est essentiel d'avoir un cadre juridique adéquat pour permettre une collaboration mondiale sur la question. C'est d'ailleurs pourquoi Marta Santos Pais milite intensément depuis 2 ans pour la ratification universelle du protocole additionnel sur la pornographie de la Convention des droits des enfants.
Le protocole est très important parce qu'il donne une orientation très précise par rapport au type de législation nécessaire qu'il faudra adopter au niveau de chaque État, sur les politiques de prévention, mais aussi de protection des enfants victimes. C'est très important de ne pas oublier que même si on parle de milliers d'enfants, chaque enfant a une histoire, chaque enfant a une vie. Il faut absolument s'assurer que non simplement on essaye de prévenir les situations d'abus, mais en même temps, si jamais un enfant a été rendu victime, qu'il faut l'accompagner, il faut assurer la récupération, il faut que le trauma soit pris en compte d'une façon sérieuse et que l'enfant se voit donner une autre étape dans la vie où il a l'espoir de regarder devant sans la crainte de ce qui vient de se passer. Donc, le protocole donne des orientations à cet égard. Il a déjà été ratifié par 158 États. Cela veut dire que nous avons plus ou moins une trentaine d'États qui n'ont pas encore ratifié le protocole. Il faudra faire un effort additionnel pour que, en fait, partout dans le monde, la référence du protocole soit la loi et pour que le fait que le protocole est en vigueur ait en effet de décourager toute atteinte de utiliser les enfants dans le contexte d'abus ou exploitation sexuelle. C'est un message qui va sûrement avoir un impact sur les réseaux criminels et sur les individus qui croiraient peut-être que ça n'a pas d'importance, il ne s'agit que d'un enfant et donc on peut en faire parce que ce sera un secret, ce sera invisible et rien ne va se passer à notre égard.
Mais quand vous dites qu'il y a 158 pays qui ont déjà ratifié ce protocole, c'est plutôt pour l'intervention criminelle que pour un changement de culture et de réalité de la protection des enfants peut-être ?
Le changement de culture et de perception de la valeur de l'enfance, bien sûr, prend toujours un peu plus de temps que l'adoption d'une loi ou la ratification d'un traité international. Mais c'est un mécanisme essentiel pour promouvoir une réflexion au niveau de chaque État, au niveau du débat public, au niveau des discussions transmises par la radio, la télévision, dans la presse écrite, dans le contexte de la formation scolaire des enfants, dans le contexte de la formation des professionnels qui s'occupent des enfants, qui travaillent avec les enfants. C'est vrai que nous avons encore des milliers d'enfants qui sont victimes de prostitution ou en fait de pornographie infantile. Nous avons encore des milliers d'enfants qui sont vendus aussi pour travailler dans des plantations ou faire partie d'un réseau de prostitution internationale. Mais en même temps, cela veut dire qu'en investissant sur une loi qui est ferme et forte et une enquête policière et des éléments d'intervention fondamentale au sein de la police pour intervenir, inquiéter et punir ceux qui sont responsables. Si on appuie ça avec des mesures de prévention et d'appui aux familles, d'investissement au niveau de la qualité de l'école et de la participation des enfants à l'école, en fait, dans les pays où ceci a été fait, nous avons vu qu'il y a une réduction du nombre d'enfants qui sont pris dans ces réseaux et les risques sont vraiment limités. Donc, il s'agit d'une intervention qui est multidimensionnelle. Il s'agit d'un problème très complexe, bien sûr. Mais ceci aide à transmettre l'image que l'enfant n'est pas un objet commercial. L'enfant n'est pas une petite boîte que l'on vend ou un produit que l'on transmet sans réfléchir. Il s'agit d'une personne avec une valeur de respect pour sa dignité humaine et auquel il faut assurer la protection qui lui est due.
Et c'est avec le plaidoyer de Marta Santos Pais que se referme cette édition d'Escale, consacrée cette semaine à la lutte contre la pornographie infantile. Escale, le magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies, vous a été présenté par Christina Silvero avec la collaboration de Frédéric Choignard et de Florence Westergaard. Je vous rappelle que vous pouvez l'écouter, tout comme le journal quotidien de la Radio des Nations Unies, sur Internet, en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.